Cascodeur Podcast, épisode 97. Devox les battles et la sécurité. Enregistré le 3 mars 2014.
Bonjour et bienvenue au Cascodeur épisode 97. Nous sommes le... Il est écrit 31 janvier mais j'ai des doutes. Le 3 mars. Nous sommes le 3 mars 2014 et puis ben, on a quelques news là depuis le dernier mois où on a discuté ensemble. Donc moi je m'appelle Emmanuel Bernard, je travaille pour Red Hat dans la partie middleware, spécialement tout ce qui est autour des données.
Et moi, c'est Guillaume Laforge, je dirige le projet Groovy, un langage de programmation pour la JVM, et je travaille pour Pivotal.
Et moi, c'est Vincent Massol, je travaille pour le projet open source XWiki, pour la société qui a un nom similaire, XWiki SAS.
Et moi, Arnaud Héritier, je travaille pour Exoplatform, le projet open source du même nom, et sur d'autres projets, Maven, Jenkins et autres.
Donc, la grosse news en France, c'est que ça y est, le CFP de Devox 1 a été fermé, mais ça on le savait. Et ensuite, 2, ils ont tout vendu, si je me souviens bien. Et en termes de place, voilà. Et ils ont annoncé le programme. Et ils avaient quasi tout vendu avant d'annoncer le programme. Donc, de toute façon.
À une semaine près, oui.
Voilà.
Donc pourquoi vous faites chier à faire un programme?
C'est ça, en fait, rien, parce que les gens, ils viennent visiblement.
C'est évident.
En fait, c'est des faux tweets, ils sont là, oh là là, 5387 trucs à regarder.
C'est juste pour faire croire qu'on bosse.
Voilà. Bon, alors on va... Si vous êtes émotionnel au niveau d'Evox, il vaut mieux passer les 10 prochaines minutes. Il y en a ici qui ont été acceptés. Donc, les cascodeurs seront... seront de la partie, mais après on avait tous plus ou moins publié des propositions pour nos projets divers, et alors moi par exemple j'ai pas été accepté, et donc j'étais très pas content en fait, j'étais très énervé, on en a discuté un petit peu là en interne avec Arnaud, etc. Et puis on s'est dit ouais, faut qu'on regarde le programme et qu'on voilà, est-ce que c'est justifié ou pas, etc., etc., etc. Donc déjà, est-ce que vous avez été accepté, les gars?
Non.
Donc, moi sur Groovy, oui, j'ai eu mon talk Groovy, donc je suis plutôt content. Ça a été moins difficile que les années précédentes, on va dire.
D'accord. Arnaud, t'as un truc?
Moi, j'avais pas proposé de talk directement, mais avec Code Envie, en fait, je fais avec Stéphane Lemeur et Nicolas Deloff, je fais un Tools in Action.
D'accord.
Et moi, j'ai rien eu non plus. J'avais proposé plusieurs choses que je pas lié à XWiki, hein, parce que c'est, je me dis que ça passerait peut-être pas, mais des choses plus génériques, notamment sur le open source et comment une société open source peut gagner de l'argent, comment on peut gérer bien entre le projet open source et la société, etc.
Ouais, ça rentre très bien dans startup et
ouais,
je sais pas quoi.
C'est dans ce track-là que j'avais proposé. Et puis d'autres choses plus génériques aussi. L'année dernière, j'avais été pris sur la qualité en Java et j'espérais rééditer ça cette année sur un sujet un peu générique comme ça.
D'accord.
Et malheureusement, non.
D'accord.
Et oui. C'est un peu bizarre d'ailleurs parce que tu vois, d'une année sur l'autre, j'ai l'impression que les tendances en termes de choix changent. Par exemple, moi j'avais proposé avant les nouveautés dans Groovy, ça avait pas marché, ça avait pas été accepté. Et puis là cette année, j'ai essayé de faire des efforts pour proposer des choses un petit peu différentes, par exemple sur le thème des algorithmes, sur d'autres choses. Toutes ces choses-là n'ont pas été acceptées. Par contre, c'est mon truc sur les nouveautés de Groovy finalement qui passe, quoi. C'est assez bizarre, quoi, d'une année sur l'autre, je trouve.
Ouais. Alors je vais en parler justement parce que je crois avoir une explication.
Oula. Voilà. Théorie. Nous t'écoutons.
Alors déjà la conférence, je vais sûrement en oublier, mais il y a beaucoup de thèmes en fait. Il y a les langages alternatifs, Java SE, Java EE, le web, HTML5, l'agilité, le DevOps, le mobile, les startups, le NoSQL, le cloud, le big data, le futur où il y a des choses un petit peu autres, etc., etc. Et donc, moi, j'étais pas content du tout sur les gens qui faisaient le comité de sélection. Hein. Arnaud, tu pourras peut-être parler de la composition après. Tout à fait. Et en fait, du coup, moi, j'ai regardé tout le programme. Je l'ai épluché vendredi dernier, je crois. Ça prend pas mal
en
de
même
temps.
En même temps que les patates.
En même temps, c'est ça, j'avais mon... comment ça s'appelle, épluche... épluche patate 3000.
Un économe.
Non, mais le...
Un économe.
Non, mais il y a un... Oui, je sais que ça s'appelle un économe, mais il y a un truc des Canadiens, enfin Québécois qui font... Ah, je ne me rappelle plus le nom. Bon, je retrouverai, mais il y a... C'est une espèce de sketch où en fait il y a juste la bouche et les yeux qui bougent et en fait c'est des voilà, et ils ont fait un truc à un moment où le gars vend des économes à la télé, ils en vendent non pas 3 à 5 mais 27 économes, mais je vous recommande, il est marrant. Enfin, disons que je raconte mal, on va dire. bref, pour revenir au débat,
avec toi qui ris, quoi.
Non, il est marrant
comme le vache. Bon, allez, vas-y.
Donc j'étais pas content du comité de sélection, et puis quand j'ai regardé finalement les catégories dans lesquelles moi j'avais proposé un Tools in Action sur Hibernate Search en rajoutant la géolocalisation, et j'avais fait un talk sur OGM, pas vraiment sur OGM d'ailleurs, mais sur quels sont les patterns de persistance d'un modèle objet dans des bases de données NoSQL diverses, et savoir comment ça varie les uns après les autres. Un petit retour d'expérience, en fait. Et donc, ils n'ont pas été acceptés. Et donc, quand j'ai regardé dans ces catégories-là, moi, entre guillemets, la compétition, bon, il y a des trucs où je pense que j'aurais été mieux, des trucs où, évidemment, j'étais moins intéressant que ce qui a été sélectionné. Mais bon, globalement, j'ai pas trouvé le choix forcément déconnant. Alors, il y a quelques populaires, hein, AngularJS, Docker un petit peu, Java SE8, évidemment, avec les streams, les lambda et tutti quanti. Mais globalement, il y a, oui, MongoDB est assez populaire aussi, mais globalement, il y a quand même une diversité des sujets. Et en fait, moi, je crois que le problème fondamental là, c'est que sur 3 jours, cette conférence, elle s'est trop éparpillée. Et du coup, c'est pour ça qu'on voit des trous. C'est pour ça que Guillaume t'expliquait, bah ouais, là, à un moment, les gens, ils étaient intéressés par tel truc et ensuite ils passent à tel autre. Ce qu'on voit, c'est que sur un sujet donné, par exemple NoSQL, alors il y a du Mongo, il y a du Cassandra, il y a du Redis, il y a, je sais plus trop, et je crois que c'est à peu près tout. Et du coup, quand on regarde le NoSQL, c'est beaucoup plus large, il y a beaucoup d'autres choses qui ont évolué, et ben on va pas les voir. Pourquoi ? Parce que ben NoSQL, c'est dans le gros paquet Cloud NoSQL Big Data, donc forcément, ben il n'y a pas la place pour tout le monde. Après, sur Java SE et Java EE, il y a des trucs un peu bizarres. Par exemple, les cascodeurs, ils sont dans Java SE, Java EE. Bon, moi, je trouve ça un petit peu, un petit peu bizarre.
Mais nous sommes à part, on ne peut pas
les cataloguer. On est transcendantal, d'accord. Mais
c'est un peu ça, ouais.
Je trouve ça un peu dommage de gâcher un slot Java SE, Java EE pour nous.
Non, mais il faut nous donner une keynote, c'est tout.
C'est ça.
Ouais,
je vois que ça.
Chiche.
ça serait marrant, hein. Ouais, ça serait marrant. Non, mais voilà. Moi, ce que je trouve, ce qu'on sait d'Evox, c'est la racine, c'est Java, d'accord. C'est Java, et puis on a rajouté l'écosystème autour pour faire une application entière. Et je trouve que la conférence, elle a perdu un peu ses racines Java. Et il faudrait qu'elle les assume un peu plus, du genre, voilà, c'est du Java. On fait des applications, mais à la base, c'est du Java. Et donc je crois que les trucs reliés à Java, c'est à peu près 25% des slots. Voilà, je trouve que c'est un peu dommage. Alors peut-être que j'ai tort. J'ai essayé de bidouiller avec l'API REST de Nicolas, mais il avait pas fini un certain nombre de choses et puis j'ai abandonné. Donc je l'ai fait à la main. Donc c'est un petit peu arbitraire, hein, le chiffre que je donne, mais je crois que c'est à peu près dans ces eaux-là. Voilà, donc c'est mon retour à moi. Je pense que, un, la conf, elle bénéficierait de 5 jours au lieu de 3, et deux, de se recentrer un peu. C'est bien d'avoir des trucs du genre futur ou du genre, je sais pas, le...
Internet of Things.
Voilà, des choses comme ça, mais à un moment,
Agile DevOps.
Il faut en choisir. Ouais. Alors, Agile DevOps, par exemple, c'est bien d'en avoir, mais je trouve qu'il y en a un petit peu trop en proportion, par exemple. Ouais. Ensuite, alors évidemment, il y a des gens qui vont pas être d'accord avec moi quand ils sont dans le Agile DevOps, mais j'aurais mis un peu plus de Java, un peu moins de Agile DevOps. pareil, le Future Opsing et la notion de start-up, je pense qu'il aurait fallu choisir un des sujets et du coup de moins disperser la conférence. Mais bon, après...
Peut-être un thème par an, un thème extra. Mais
voilà, c'est genre. Un truc. Ouais, exactement.
Mais malgré tout, bon, peut-être pas passer à 5 jours, mais ne serait-ce qu'à 4. Et ce serait déjà pas mal pour couvrir un peu plus large. Ça, et puis voir aussi autre chose que le Marriott, parce qu'il est trop petit, quoi. Ça tient plus là-dedans.
Ouais. Donc, s'il passe à 5 jours et qu'il se recentre un petit peu, moi, je pense que je serais plus content et ça permettrait d'aller un peu plus profond sur chaque sujet. Voilà, sans avoir le sentiment de flouser certains par rapport à d'autres. Alors, je sais, c'est dur, hein, faut faire des choix en amont. C'est-à-dire que c'est avant le comité de sélection, finalement, puisque c'est les méta-choix qu'on fait les gens
thèmes,
qui... Ouais, voilà, les thèmes, etc.
Tout à fait.
Voilà, donc ça, c'est mon feedback. Hein, peut-être que j'ai tort. Et alors, je suis biaisé, hein, je vous ai dit, je n'ai pas été pris. Donc, je suis un peu énervé encore, même beaucoup. Voilà, Arnaud, tu voulais dire
qu'est-ce que je peux dire? Bon, je vais effectivement pas de toute façon défendre nos choix ou notre travail en tant que tel. C'est clair qu'aujourd'hui on est une douzaine de personnes à choisir les sélections. Ça prend, c'est quoi? Il a été ouvert 2 mois, je crois, le CFP, un petit peu moins de 2 mois. Nous, on a mis à peu près le même temps à évaluer et à noter toutes les propositions. Alors, je suis d'accord avec toi sur le fait d'avoir un choix trop large en termes de thèmes. Ça avait déjà été reporté aussi en interne. C'est pas simple pour nous. On n'a pas réussi en début de sélection à se dire, enfin même avant, donc le CFP, à se dire qu'est-ce qu'on pourrait virer comme thème, qu'est-ce que les gens seraient prêts à faire l'impasse dessus. On n'a pas réussi à se mettre d'accord et bon voilà, ça se voit effectivement sur les thèmes qui sont un peu trop nombreux. C'est clair surtout pour 3 jours parce qu'on a déjà un peu diminué par rapport à ce que fait un DevOps classique et il y en a encore de trop à notre goût, ne serait-ce pour gérer les tracks qui sont derrière et tout ce qui va avec. Donc c'est vrai que ça, c'est dans nos axes d'amélioration, on l'a déjà noté. Sur le fait des proportions, alors notamment par rapport à Java et le reste, on a quand même toujours fait attention, même quand c'est pas dans le... Alors, quand c'est pas dans le Java, il y a 2 choix. C'est soit, bon, c'est sur la JVM et d'autres langages. Donc là, on retrouve, bah, bien sûr, Groovy, mais d'autres langages qui ont été faits comme choix. Soit on essaie quand même de rester assez proche de Java sur les cas qui sont présentés ou analysés. Donc, on essaie de pas faire trop de théorie. On a jeté, par exemple... Alors, moi, j'étais responsable du track qui était DevOps et Agile. Donc, justement, je me battais pour qu'il y ait moins de DevOps et d'Agile. À DevOx, ce qui n'était pas simple parce que voilà, on n'arrivait pas à se dire ça vaut vraiment le coup de le virer pour laisser une autre place à du Java ou quoi que ce soit. Ça n'a pas toujours été simple. On a quand même limité beaucoup et notamment bah, tout ce qui est, on va dire, généraliste sur de l'agile ou du DevOps. Voilà, on n'a pas du tout touché, alors qu'on en avait plein, hein, des propositions là-dessus, sur ces sujets-là. On en a viré plein. C'est pas simple. C'est clair qu'on a fait notre possible. Bah, Java, oui, je suis à peu près d'accord avec toi. Ça doit être à peu près 25 ou ouais, plus de 25% dans le track Java seulement. Mais après, dans les autres tracks, on retrouve du Java, notamment, enfin, normalement, à peu près partout, ou lié à Java directement. Donc non, c'est pas simple. C'est clair qu'on a fait notre possible pour retenir un maximum de sujets. Bah c'est comme pour Guillaume, effectivement, il disait son track avec sur quoi ton deuxième track sur ta deuxième session que t'avais.
C'était une université,
par exemple,
je crois.
C'est
ça. Non, alors t'avais une université avec Didier aussi. Gérard.
Sur le machine learning.
Alors là, c'est pareil, les universités, on en a pas beaucoup, on en a que 8, je crois. Donc là, c'est pareil, les places sont super chères. Donc, comme c'était quand même très inconnu ce que vous alliez faire en termes de, bah voilà, enfin, en termes de succès, c'est-à-dire voilà, le machine learning, on savait pas du tout si ça allait plaire au public, etc. C'est vrai que
vous avez tort, hein, c'est le truc de 2014 pour moi.
Ouais.
Mais malgré tout, j'ai remarqué après, pour essayer de comprendre pourquoi ça avait pas été pris, j'ai vu qu'il y avait quand même 2-3 autres sujets, alors, ou Tools in Action.
Voilà.
On en a mis, mais pas en université.
Université, c'est quand même 3 heures. C'est quand même très long. C'est le premier jour, en plus. Donc, voilà, faut que les gens soient réveillés. On a vraiment eu peur là-dessus sur l'université que, bon, ça fasse beaucoup. Donc, ça, je sais pas, hein, l'avenir.
Bah, c'est dommage parce que là, ce qu'on avait prévu, tu vois, c'était plutôt justement, introduction. C'est-à-dire pour amener les développeurs à penser au machine learning. Et pas forcément à être avancé sur un thème où, par exemple, je crois qu'il y a un sujet sur les moteurs de recommandation. Donc là, c'est déjà une spécialisation. Donc tant qu'on n'est pas encore dans un, tu vois, c'est un peu l'histoire de maturité là du Gartner et tout ça. Je veux dire là, on en est encore à, au balbutiement où les développeurs ont besoin de d'apprendre un petit peu ce que c'est, et du coup on pensait que c'était le bon moment pour avoir une université sur ce thème-là.
Bon, après faut voir, c'est toujours le même truc, c'est que voilà, après les places c'est pareil, sont chères. Il y a que 8 places, donc effectivement sur nos choix, je crois qu'on a essayé d'équilibrer pour bah justement il y a du Java, il y a du Java 8, du JE, il y a du je sais plus, bon j'ai pas la liste en tête exactement. On a essayé de répartir un peu sur tous les thèmes pour justement dans les universités tout soit abordé.
Et mon autre sujet, Emmanuel, vu que tu disais, c'était sur le thème des algorithmes, c'est-à-dire de se rendre compte qu'en fait tout ce que tu fais dans ta vie, t'es entouré par les algorithmes tout autour de toi pour des choses bêtes comme les préfixes téléphoniques, aussi bien que bah, quand tu utilises ton GPS. Et donc du coup, je m'étais dit tiens, je vais essayer de prendre un truc original qui peut être assez fun d'ailleurs comme sujet, et éventuellement je vais pouvoir montrer aussi comment on a implémenté certains en Groovy, mais même si je les décris pas tous ou je les implémente pas tous forcément. Du coup je m'étais dit bon, si j'ai pas, ils aiment plus à Devox les what's new, les intros, les trucs comme ça, bah tiens je vais faire quelque chose de différent, un sujet intéressant, mais j'utilise Groovy, mais c'est juste bah voilà, parce qu'il faut bien utiliser un langage quelconque pour présenter ce sujet là. Donc je m'étais dit je vais utiliser cette approche là. Et puis, vous aviez eu pas mal d'hésitations quand même, malgré tout.
Non, on a eu beaucoup d'hésitations.
J'ai été surpris clairement, que finalement, ce soit l'autre qui soit choisi.
Voilà, en fait, bah, clairement, on préférait celle qui n'était pas purement Groovy, mais qui était sur les algorithmes. On la préférait en termes de contenu. Par contre, ce qu'on s'est dit, le problème, c'est que cette année, bizarrement, dans le CFP, il y avait peu de présentations orientées Groovy en tant que telle. Sur le Groovy.
On a été un peu échaudé aussi.
Ouais, tout à fait. Mais je pense que c'est lié, tout ça, l'historique, etc. Donc là-dessus, on a eu peu de propositions. Et donc, en gros, on avait deux propositions de Guillaume Laforge. Et le problème, c'est que ça nous faisait retenir deux fois Guillaume Laforge. Et donc là, par contre, c'est d'autres critères qui rentrent en compte. C'est de laisser un peu la place aussi à tout le monde. Tu vois qu'on n'a pas pu retenir un certain Emmanuel Bernard qui est un petit peu connu, mais bon voilà.
Ouais, mais personne ne le connaît.
Mais bon, mais effectivement, on a préféré.
Faut donner la place au petit nouveau.
Voilà, donner la place au petit nouveau. Et donc bon, on s'est dit bon, effectivement, ça nous embêtait qu'il y ait pas du tout de Groovy cette année sur les conférences et sur ce type de contenu. Donc voilà, on a préféré prendre ta conf sur Groovy pour ces choix-là plutôt que celle qu'on préférait quand même, parce que voilà, on s'est dit après les gens ils viennent quand même aussi pour avoir des news sur tout ce qui se passe dans l'écosystème Java, Groovy entre autres, et donc ça paraît aussi plus important pour l'ensemble des participants d'avoir ce type de talk.
C'est quoi votre cible ? C'est le mec qui a l'aider dans son boulot, ou c'est un peu le mec pour qui rêve et qui voit le hype
On essaie justement de partager 50-50, c'est-à-dire qu'on essaie justement dans nos critères de retenir à la fois les conférences, les sessions qui vont être utiles pour lundi prochain. Et donc effectivement, c'est un de nos critères de choix. Est-ce que lundi prochain, c'est quelque chose qu'on va pouvoir utiliser, qu'on va pouvoir faire et qui va s'adresser un maximum de nos participants. Faut pas oublier qu'on a dans les 1400 participants, donc il y a beaucoup de personnes qui ont des profils orientés SS2I, qui travaillent dans les grands comptes, qui font du JE classique. Et donc on essaye à la fois d'être utile pour ces gens-là et à la fois de les faire rêver. Donc effectivement, voir demain. Qu'est-ce qu'ils pourront faire qu'aujourd'hui effectivement ils feront peut-être pas au boulot, et donc là voilà, c'est des sessions qui vont plus loin, qui vont effectivement sont pas réalisables tout de suite, mais qui font rêver. Donc on essaye de se répartir.
Mais je sais pas si vous en avez eu, mais c'est dommage qu'il n'y ait pas de Webflow, de WebSphere, des trucs un peu.
Alors sur les serveurs d'app, etc., on n'en a pas trop eu de mémoire de spécifique, mais après je sais pas si pareil, c'est ce que tu disais,
c'est has-been les serveurs d'app.
Non franchement, enfin là je pense pas qu'on aurait dit que c'est has-been, mais c'est plutôt après choisir l'un plutôt que l'autre. C'est toujours le même problème, choisir ce genre de choses. Après ça dépend, si vraiment il y en a une qui nous plaît bien sur un domaine particulier, etc., on la prendra. Mais si c'est juste pour faire du marketing pour Glassfish est meilleur que Webflow ou etc., bon, est-ce que ça a encore un intérêt ? Enfin, on n'est pas là non plus pour faire du marketing, si ce n'est les...
Non, mais je le prenais plutôt en... j'utilise Webflow, j'utilise JBoss,
mais ça, voilà, ça, EAP, par contre,
et voilà, les nouveautés, tu vois, que j'ai pas forcément entendu parler et que j'utilise pas forcément encore.
Donc non, là-dessus, on en a pas eu beaucoup, sincèrement, à ce niveau-là. Sur les outils, on a quand même surtout des trucs qui sont qui viennent d'émerger. On a eu du Spring Boot, du JBoss Forge, il y aura du Gradle, puisqu'il n'y a jamais eu de Gradle à Devox France, donc il y aura du Gradle cette année. Donc sur les outillages, on reste, c'est vrai qu'il n'y a pas trop de retours. J'en ai pas vu beaucoup de ce type de session. Peut-être que ça manque d'ailleurs.
D'accord.
Bon, on ferme le sujet. En tout cas, merci de ton retour.
Avec plaisir.
Je suis quand même encore énervé. Hein,
Allez, reviens l'année prochaine, promis.
Encore une chose qui avait
cassé. C'est vrai que c'est, pour nous, c'est, je pense que Vincent est un peu dans le même thème. C'est, donc on met les cascodeurs parce qu'effectivement, c'est cool, c'est une institution. Mais si c'est utilisé comme une permission de, entre guillemets, d'enlever une conférence Vincent Massol ou Emmanuel Bernard, c'est un peu dommage pour nous et c'est plus difficile à vendre pour notre boîte de passer 3 jours dans une conf voilà où on fait pas de représentation du tout quoi.
Pour ce cas particulier, hein, clairement, je pense que, enfin, il n'y a pas eu du tout, enfin, les cascodeurs quand ils sont choisis. Bon, déjà, c'est la dernière conf de la conférence, qui est toute seule. D'ailleurs, je crois qu'il y a personne en face d'habitude.
Ouais,
on met personne en face. Et clairement, elle est hors jeu. Ça fait partie même de la catégorie pour la mettre dans événements spéciaux, où effectivement.
Ah, faut mettre une catégorie les cascodeurs. Ouais. Hein,
une catégorie les cascodeurs. Mais donc, effectivement, elle n'a pas joué dans les critères qui feraient que Vincent ou toi soyez pas retenus. C'est clairement pas parce que vous aviez déjà une apparition dans cette session-là, que vous n'allez pas être retenu sur autre chose. La preuve, Guillaume est retenu, et bon, moi par intermédiaire de mes autres collègues, mais c'est pas moi qui posais le truc. Mais effectivement, donc ça là-dessus, non, ça a pas joué en votre défaveur. Par contre, oui, ce qui a joué en votre défaveur, bah oui, c'est la concurrence et le fait, bah oui, qu'on manque de place, qu'on a peut-être eu trop de sujets, qu'on a voulu traiter trop de sujets, ça c'est certain. Oui. Et oui, je regrette beaucoup, notamment aussi celle de Vincent sur l'open source. Moi, elle me plaisait bien, ça, sur l'économie, le système économique de l'entreprise open source. Mais bon, elle n'est pas passée. Je l'ai défendue, mais elle n'est pas passée.
Il y avait un sujet pas mal aussi, là, de Mathilde sur les tests, qui avait l'air intéressant.
Il y en avait une sur le Selenium, il y en avait une sur les tests clairement des regrets, on en a plein, enfin des sessions que j'aimerais bien voir dans les centaines qu'on a reçues, il y en a encore malgré ce qui a été sélectionné, c'est clair qu'il en reste des dizaines que j'aimerais bien voir aussi, hein, mais voilà. Aujourd'hui, manque de place, et peut-être effectivement choix éditoriaux pas assez précis, mais qui auraient au moins permis d'avoir moins de sujets, mais plus centrés sur certaines thématiques. Je sais pas.
Ouais.
À voir.
Bon allez, on va passer. Vincent, est-ce que tu veux nous faire un petit retour du FOSDEM parce que t'étais pas là la dernière fois, mais je crois que ça a été juste passé du FOSDEM. Alors, c'était bien. C'était bien ta room wiki.
Ouais, FOSDEM, c'était donc en février dernier.
Et en fait, c'est pour ceux qui ne veulent pas vraiment démissionner, c'est ça? Ils posent une fausse dème.
On n'a pas rigolé parce qu'on avait coupé le micro. Mais...
D'accord. Donc, c'est une conférence qui est très sympa parce que c'est vraiment très, très open source, très root, très hardcore développeur open source. Et l'originalité, c'est qu'il y a des sessions plénières. Mais il y a aussi la possibilité d'avoir des rooms, des pièces entières gérées comme des conférences séparément. Ça veut dire qu'on postule pour un sujet. Par exemple, moi, j'avais postulé pour avoir une wiki dev room. Ça s'appelle ça des dev rooms pour traiter du sujet des wikis. Et on l'a eu, en fait. Donc, il y a plusieurs sujets. Il y a un comité qui se réunit et qui choisit les sujets. Il y a pas mal de pièces. Hein, c'est assez vaste. Il devait y avoir, je sais pas, par exemple, une trentaine de dev rooms disponibles, tu vois. C'est assez énorme. Et on fait ça en collaboration avec d'autres. Donc, pour le Wiki Dev Room, ça a été fait avec entre XWiki, MediaWiki et TikiWiki. Et on organisait ça ensemble. Donc, on a la pièce pour toute la journée. Et c'est à nous de faire notre programme. On a fait notre propre CFP. On a défini nos propres règles pour savoir qui sera accepté, les règles d'acceptation, etc. On a reçu les soumissions et on a choisi. Et ensuite, c'est nous qui avons organisé dans la salle elle-même, pour que tout se passe bien. Pour faire les enregistrements vidéo, il y a une caméra et on trouve quelqu'un pour filmer, etc. Donc c'est notre propre conférence à l'intérieur de la conférence. D'accord. Le concept est très sympa. Donc il y avait plein de monde, la dev room, et cette dev room-là, c'est plutôt bien passé. On était à peu près 40-50, globalement, c'est les tailles globalement des dev rooms. Il y a des plus grosses, mais c'est la moyenne. Et ça a été sympa, pas mal d'échanges, assez dynamique. Et c'était une bonne première expérience de dev room.
Cool.
Très bon, cool, ouais.
Ouais. On va passer système d'exploitation. Alors, si vous êtes sur un Mac, j'espère que vous avez mis à jour un, votre téléphone iOS et deux, votre OS 10. Parce qu'il y avait, depuis pas mal de temps finalement, depuis je crois la 10.7 ou 10.8, une énorme faille de sécurité, toute bête. C'est que dans le code qui check la clé d'échange SSL entre le serveur et vous, elle est bien propre, eh bien, il y a des if. Alors, ils n'avaient pas utilisé d'accolade, mais il y a un if qui dit, bah, si ce truc-là, c'est une erreur, ben, va en échec. Si ce truc-là, ça passe pas tel test, etc., etc. Et ils ont mis un moment deux fois go to fail, ce qui fait que le deuxième go to fail était exécuté tout le temps. Et la conséquence, c'est que le serveur de sécurité était en gros pas vraiment obligé d'avoir un certificat valide et certifié, ce qui fait que on était susceptible d'être attaqué en man in the middle, qui est pas très très difficile à mettre en place. Et donc, ça fait, je sais pas, un an, deux ans que ce truc-là est. Et que cette faille existe, et donc ça fait un petit peu peur en fait. parce que là, est-ce qu'on met à jour tous les mots de passe, est-ce qu'on vire toutes nos clés et qu'on recommence à zéro? Vous l'avez pris comment, vous?
J'ai mis à jour, mais j'ai pas été quand même jusqu'à tout remettre à jour partout, dans tous les sens. Je suis peut-être un peu trop candide là-dessus, je sais pas.
Ouais, et je pense qu'on l'est tous un peu trop, en fait. Moi, c'est pareil. Ouais. Je pense qu'on réalise pas tout ce qui peut arriver. En fait, il manque quand même des gros cas d'attaques publiques comme ça.
Je pense que c'est des attaques privées. Il y en a qui ont dû se régaler pendant deux ans, quoi. Pour cibler une personne ou une compagnie donnée.
Ouais, on les voit pas vraiment, justement. Celle-là, c'est assez caché. Ouais. Mais c'est vrai que dans le futur, je pense que la sécurité va être un sujet qui va grandir de plus en plus. On le voit, et pareil dans nos logiciels, c'est pareil, on s'occupe de la sécurité, que ce soit XWiki ou autre, ou ExoPlatform ou d'autres. Ouais. On essaie de corriger des problèmes de sécurité, mais il y en a beaucoup, et il y aurait beaucoup de choses à faire, encore plus. Et tant qu'il n'y a pas des énormes attaques et des choses avec plein de problèmes, c'est assez difficile de dépenser suffisamment d'énergie et d'argent à corriger tout ça.
Ouais. Alors, je reproche pas à Apple d'avoir fait la connerie du go to fail. C'est dommage parce qu'avec un style de code un peu différent et sûrement de la revue de code, ce problème il serait jamais arrivé. Après, les bugs ça arrive. Par contre, c'est dommage qu'il n'y ait pas la notion de revue de code, qu'il n'y ait pas la notion de test d'une manière ou d'une autre, de ce genre de truc. Apparemment, c'est pas trivial à tester parce qu'il y a un gars de chez Google qui a fait un post-mortem en disant c'est un peu compliqué, faut réécrire une stack TCP alternative pour tester ce truc-là. Tiens, je sais ce que je vais faire lundi. Donc voilà,
on a tendance malgré tout à tester le happy path.
Ouais,
les bons cas plutôt que les cas tordus, quoi. Et justement, les pirates, c'est les cas tordus qu'ils adorent. Hein.
Ouais, exactement.
Mais c'est pas facile.
Donc, mais effectivement, comme tu dis, Vincent, je pense que en même temps, on n'a pas le temps. Et je pensais à un service qui te permettrait de mettre à jour tous tes mots de passe de tous les trucs que tu as à faire automatiquement. Tu vois, tu dis, tiens, il y a eu une brèche. J'appuie sur un bouton, je lui infuse tous mes mots de passe existants et puis il me change tous mes mots de passe et il me les remet à jour dans ma base de données de mots de passe et basta. Ça serait bien. Parce que concrètement, si je me dis tiens, mes mots de passe ont été compromis, qu'est-ce que je fais pour contrer ça? Soit je me tape deux jours, changer tous les mots de passe, changer mes clés, essayer de trouver tous les trucs sur lesquels j'ai un compte. Soit je dis on espère. Et en fait, on est un peu comme tout le monde, hein, on espère et on serre les fesses.
Mais par contre, c'est vrai que sur des... Tu sais, par exemple, il y a Kickstarter, il n'y a pas longtemps, qui avait une brèche, ou Yahoo, etc. Et par contre, quand ces acteurs-là, pour ces comptes spécifiques-là, font un warning comme ça, par contre, j'ai tendance quand même à les changer manuellement, vu que là, c'en est un seul à changer, tu vois.
Exactement.
Mais moi, c'est vrai que je ne vais pas le faire globalement pour tout ce que j'ai, quoi.
Ouais.
Bah, la solution, c'est de plus avoir un mot de passe déjà, mais bon, ça va prendre un peu de temps avant d'arriver là.
Ouais.
C'est voilà, d'avoir des choses biométriques, non, même des choses où tu n'as pas besoin de, d'avoir un mot de passe.
Ouais. Enfin, il y a eu des loupés, sur le début du biométrique, enfin, du truc Apple, là, sur leur nouveau téléphone, il y avait eu un problème tout au début quand ils l'ont lancé, justement, avec l'empreinte, je sais plus, il y avait eu tout un...
Non, tu peux copier l'empreinte.
Un buzz ça, au début toujours. Où, justement, non, mais il y avait un problème, ils l'avaient patché rapidement, mais en gros, tu pouvais facilement, faire passer le test, donc, je sais plus, donc. Après, c'est le même truc, c'est la confiance dans le système qui...
Moi, c'est plutôt l'inverse, hein, j'ai du mal à le faire passer de temps en temps.
J'ai changé de doigt.
C'est ça. Voilà, bref.
Mais bon, un système centralisé comme tu le dis, Emmanuel, c'est dangereux aussi parce qu'il faut pas qu'il se fasse hacker. Hein.
Voilà, donc voilà, faut que ça soit une appli en fait. Faut que ça soit une appli locale où c'est toi qui fais tourner le truc, tu vois.
Moi, avec Dashlane, c'est ce que j'ai un petit peu, mais ça remplit pas, ça fait pas le changement des mots de passe. Par contre, ça m'alerte si certains mots de passe ont été, si certains comptes ont eu une infraction, etc. Ils arrivent à te dire, bon bah attention, il y a une prise de compte chez tel machin. Vous utilisez ce mot de passe là chez tant d'endroits, donc faites gaffe de les changer. Ça, c'est Dashlane, il te le fait, mais voilà, par contre.
Ah, c'est vrai, c'est bien ça.
Ouais.
C'est mieux que First Password dans ce cas-là.
Oui.
Il
fait pas ça. Je connais pas First Password, j'avais pas utilisé, j'avais récupéré Dashlane, et là-dessus.
Et Dashlane, ça va sur leur serveur, non?
Ça passe, mais c'est encrypté.
C'est encrypté de partout, et normalement, même quelqu'un qui a accès aux données de Dashlane ne peut pas, il a pas les mots de passe, quoi.
C'est ça, tu peux pas y accéder, il faut que tu enregistres ton device, etc. Donc, bon, en théorie, c'est sécure, et les mots de passe, mais voilà, on est toujours sur
des... Sur leur site, ils ont même un espèce de white paper où ils expliquent le process, en quoi c'est sécurisé, comment c'est encrypté, etc. Et du coup, bon, ça c'est limpide pour celui qui...
Donc ça c'est pratique parce que ça te dit à la fois tes mots de passe, où est-ce qu'ils sont, où est-ce que tu les réutilises, où est-ce qu'ils sont compromis, etc. Donc,
après ça c'est l'hygiène de base de pas les réutiliser, mais bon.
Alors voilà, après c'est ça, c'est que le truc de base c'est qu'ils te conseillent d'en générer à chaque fois, mais je sais que moi j'ai...
C'est comme se laver les dents tous les jours les gens, hein. il faut le faire.
Alors ça je le fais, mais par contre changer d'avoir des mots de passe générés, franchement c'est quand même vachement moins pratique.
Et pas que tous les jours, plusieurs fois par jour.
C'est ça.
Moi je le fais, alors j'utilise pas Dashlane ou last password ou first password ou je sais pas quoi. J'utilise KeePass, donc c'est manuel, c'est à moi d'entrer mes trucs, manuel, c'est à moi Bernard, de créer les mots de passe, mais voilà, j'ai jamais le même mot de passe sur quoi que ce soit.
Ouais, mais donc tu peux jamais te loguer sans ce truc là. Tu peux jamais.
Ah bah
c'est ça qui est chiant.
Moi c'est pareil, c'est jamais les mêmes, je suis habitué. En revanche, je les connais pas non plus, hein. Si on me torture, je peux pas le dire.
Je peux pas le dire.
Ouais, mais par contre, t'en as besoin pour une urgence parce que t'as besoin d'accéder à un système que t'es pas sur ta machine, bah tu peux pas.
Ah, je l'ai sur mon téléphone aussi.
Oui, non, mais c'est ça, faut ton téléphone, faut ton machin, faut un device. Et par contre, si on te pique ton téléphone et qu'on arrive à rentrer dans ton appli, bon bah là, on peut rentrer partout.
Si on
craque ton master password
avec ton mot de passe principal,
que celui-là tu connais, que du coup ils ont accès à tout.
Voilà, c'est ça. Donc ils te torturent pour avoir le mot de passe principal.
Non, mais ça pose un problème parce que tu dis, mes backups, je vais les encrypter.
Bah voilà.
Mais si t'encryptes le fichier moi qui passe, comment tu fais après, hein? T'es bien dans le caca.
C'est ça.
Il faut quand même trouver.
Il y a un moment, faut que tu te souviennes de
mot de passe. Voilà. Exactement. Bon. Sinon, ça a rappelé, un vieil article de 1968, Go-to statements considered harmful, par monsieur Dijkstra.
Non, on dit Dijkstra.
Dijkstra, pardon. Voilà, donc il explique.
C'est plus simple qu'on ne le croit en fait.
Dijkstra. Comment le dire, tu veux dire?
Ouais, le IJK, ouais. En fait, c'est juste I. Donc c'est Dijkstra.
Ouais, d'accord. Et donc, il explique pourquoi GoTo, c'est un truc dangereux et qu'il ne faut pas le faire. Donc, peut-être que les gens à Apple devraient le lire. voilà, on va passer au langage. C'est peut-être un peu vieux comme article, mais il y a la représentation des strings en Java a changé. Avant, il y avait, en fait, l'objet string, il avait une valeur qui était un tableau de char. Ensuite, un offset qui permettait de dire je réutilise le même tableau de caractères entre différentes strings. Donc, quand on fait les substrings, etc., ça pouvait être un peu plus optimisé. Le nombre de valeurs dans le tableau, du coup, et le hash, qui est qui est copié, enfin qui est construit une fois et mis en cache parce que c'est un truc qui est assez long à calculer et qui coûte cher dans les HMAP et ce genre de choses. Et ils ont changé ça dans Java 7 Update 6, donc c'est il y a quand même un certain temps. Il n'y a plus la notion d'offset et de count en fait, et de la taille de la chaîne. Donc il n'y a que la valeur. Et quand on fait une substring, c'est-à-dire que littéralement il copie entièrement la sous-partie du tableau pour faire ça. Alors l'avantage c'est que des chaînes de caractères, je sais pas si vous avez fait déjà des analyses de perf de votre application, mais c'est probablement un des objets les plus créés dans votre application, même si c'est pas une appli, c'est pas un word processor ou un truc dans ce goût-là. Et donc enlever count, enlever offset, ça permet d'optimiser, enfin ça permet de réduire la taille mémoire potentiellement de chaque string. Donc il y a un certain avantage. Ils ont aussi par contre créé un H32, donc un H un petit peu différent qui leur permet d'avoir une meilleure dispersion, notamment pour justement rentrer les choses dans les maps et dans les scènes, donc d'éviter les collisions et du coup d'améliorer les performances. Par contre, si vous faites beaucoup de découpage et de création de substring à partir d'une chaîne de caractères, vous avez probablement vu un problème de performance parce que j'imagine que vous avez mis à jour depuis ce temps-là. Donc voilà, c'est un article intéressant à lire sur l'avantage de la nouvelle méthode, les inconvénients et ce que ça change. Donc je vous encourage à lire cet article. Je sais pas si vous l'avez lu, mais moi j'ai trouvé ça vachement intéressant.
Je l'avais regardé très superficiellement, mais du coup, donc un string, il y aura plus qu'une seule ficelle ou au lieu de deux.
Ouais, tu l'avais superficiellement, tu l'avais regardé.
Ça.
Hein.
Ça faisait longtemps qu'il a préparé. Hein.
C'est ça. Dans les frameworks, il y a Drew. Alors il y a c'est pas forcément nouveau, mais il y a un article, enfin plutôt des slides de Mark Proctor sur Drools et JBPM 6. Et donc lui, son grand dada, c'est l'intelligence artificielle et les moteurs de règles. Enfin là, je sais plus comment on dit. Prologue, quoi, en gros. Et donc voilà, il y a 106 slides. Donc,
système expert, tu veux dire, ou ça
Non, c'est la logique. En fait, la logique des moteurs de règles, c'est une spécialisation d'un thème un peu plus générique, mais je me rappelle
l'algorithme
plus.
Algorithme rété.
Ouais, alors ça, c'est en implémentation spécifique. Donc voilà, c'est bon, 106 slides. Si vous êtes un peu sur utiliser ces outils-là ou vous êtes intéressé, ça peut être intéressant. Sinon, il y a Netty 4.0.17 qui est sorti. Bon, c'est essentiellement du bug fix, hein, donc je vais pas passer trop de temps dessus. Voilà. Au niveau des plateformes, il y a Solar 4.7 qui est sorti. Un truc intéressant, notamment dans Solar 4.7, c'est la notion de deep paging. Donc en fait, Solar est capable de faire des requêtes sur des nœuds distribués. Et le deep paging, ça veut dire le paging, c'est je veux que les 10 premiers éléments parmi les résultats, et ensuite de 10 à 20, enfin de 10 à 19, ensuite de 20 à 29, etc., etc. Mais si vous êtes à 5080 à 5089, ben là, il y a quand même des surcoûts puisqu'il faut recalculer chacun des éléments, et chacun des nœuds doit ramener en gros ces 5000 premiers éléments pour qu'après le nœud principal puisse choisir. Et donc ils ont réussi à optimiser ce genre de truc. Donc si vous avez des utilisateurs qui ont tendance à cliquer 2500 fois pour regarder le 5000e élément de leur liste, il y a des trucs intéressants à ce niveau-là au niveau de Solar. Sinon, il y a Elasticsearch 1.0 qui est sorti. Alors, on avait parlé de Elasticsearch CR1. Donc, voilà, ils ont en gros...
Enfin,
voilà, ça fait pas mal de temps. Hein. Je sais pas quand est-ce qu'ils ont démarré le projet.
Mais c'est ça qui est marrant, c'est que ces projets-là, tu vois, en 0.9 machin, qui sont là depuis finalement un bail et qui sont déjà utilisés dans des gros, gros sites, grosses applications, énormément de documents et tout.
Ouais.
En fait, finalement, le numéro de version, des fois, tu t'en fous un peu, quoi.
Bah, après, ça accélère, en fait. Ils font du genre
01, 02, 09,
0,99, 0,999, etc. Et d'un coup, c'est 1, 1, 1, 2, 1, 5, 2.
Ouais.
En fait, il y a
un peu de genre. T'as peur au début, une fois que t'as passé la barre, ça y est,
c'est ça,
tu lâches
c'est
tout.
Foutu, de toute façon.
mais des fois, le non-passage à 1.0, c'est un problème pour l'adoption du projet, et parfois ça l'est pas. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas vraiment de règles. Moi, je sais que quand Groovy est passé en 1.0, on a vu quand même un accroissement de l'utilisation de Groovy, enfin significatif quoi. À ce moment-là, au passage de la 1.0, tu vois, ça a doublé presque du jour au lendemain, parce que les gens, ah bah tiens, c'est bon. Si les développeurs ont confiance. Alors que là, d'après en tout cas leurs chiffres, où ils disent qu'ils sont téléchargés, je sais plus, 400 000 fois par mois. C'est-à-dire deux fois plus que Groovy, tu vois, qui est déjà téléchargé pas mal. Je me dis, ah ouais, quand même, pour quelque chose qui n'était pas en 1.0, ils ont déjà des super chiffres, quoi. Voilà.
Ouais, ça dépend sûrement, en fait, si ton framework, ton appli, il y a de la concurrence côté ou pas, en fait.
Oui, il y a plein de choses. Oui, il y a plein de
facteurs. Si tu deviens incontournable sur un domaine, peu importe la version.
Ouais, c'est vrai.
Mais ils ne sont pas incontournables, hein. Ils sont un peu sexy et ils ont notamment la visualisation là qui est assez sympa là.
Kibana.
Kibana, Marvel, je sais pas quoi là, voilà, on avait discuté la dernière fois. Solar, c'est un concurrent plus qu'honorable, voire même Elasticsearch est plutôt à essayer de les rattraper.
D'accord.
Donc voilà, il y a pas, enfin c'est les deux mastodontes que moi je connais du marché en open source, mais. Voilà, c'est pas le Hibernate versus pas grand chose d'autre à l'époque des ORM par exemple. Google quoi déjà?
App Engine.
Google App Engine, tu vas en parler un peu, t'as suivi ou?
Alors j'ai pas regardé de très près les release notes, là ils ont sorti la version 1.9.0.
Ouais.
Avec leur comment ils appellent ça, leur espèce de système de module quoi.
Ouais.
Qui permet en fait, donc quand on a une application qui est assez conséquente, en fait on veut éventuellement que différentes parties de l'application aient des caractéristiques différentes, par exemple au niveau utilisation CPU, mémoire, les différents quotas que App Engine autorise. Et donc là, ces modules là en fait on peut faire une, c'est comme si c'était plusieurs applis avec différents critères de différents critères de performance, scalabilité, etc.
Voilà, c'est genre celle-là, je veux qu'elle scale sur jusqu'à 10 machines, ou enfin pas 10 instances virtuelles, celle-là une seule, ce genre de choses.
Ouais. Et donc sur le principe, c'est pas mal, mais apparemment, donc j'ai un de mes camarades là, qui travaille sur le framework Gaelic, donc qui est un toolkit au-dessus de Google App Engine pour faire des applis en Groovy. Pour App Engine, qui a l'air d'être assez mécontent des modules et qui sont quand même pas bien bien secs. Alors ils passent en bêta quoi.
En finale,
mais c'est pas encore sec quoi. Et aussi noter, et c'est un truc qu'on avait déjà vu plusieurs fois. Alors c'est pas spécifique au module cette fois-ci, mais il a noté aussi que plusieurs fois, c'est déjà arrivé aussi dans le passé, que quand en fait, sur la plateforme Google App Engine, ils font en quelque sorte des migrations automatiques du runtime d'App Engine.
Ouais.
Donc même si toi, tu déploies une application avec un vieux toolkit en 1.8.3, derrière, en fait, c'est comme s'ils échangeaient ton jar et qu'ils mettent leur 1.9 à la place, quoi, voilà.
Ouais.
Et c'est là que tu t'aperçois, bah tiens, mon appli, en fait, elle marche plus. Et ils te le disent même pas quand est-ce qu'ils font le switch. Donc du coup, d'un seul coup, ça marche plus et bah tu sais pas pourquoi et t'as pas moyen de débugger et puis t'es surpris, quoi.
Ouais, j'ai vu un retour comme ça, moi, sur Twitter, ouais. Un monsieur musketeer qui dit « Ah, surprise !»
Ah, c'est lui, mon copain.
Ah, d'accord. Fait. Mise à jour silencieuse et paf, ça pète mon appli.
Exactement. Donc ça, c'est pas super, quoi. Il pourrait, je veux dire, c'est pas... Sur le principe, donc, ça leur permet de faire évoluer la plateforme, les API, tout ça, le support des différentes versions et tout. Donc c'est pas forcément déconnant, mais au moins qu'ils fassent le switch de manière officielle. C'est-à-dire que les développeurs... faut que je vérifie justement à telle date que mon appli fonctionne correctement, quoi.
Ouais.
Ce serait un peu la moindre des choses à faire, quoi.
Ouais. Voilà, sinon ils ont finalisé ou mis à disposition une API MapReduce pour le Java.
Oui, j'ai oublié ça. Ouais.
Et puis ils travaillent sur, ils améliorent de plus en plus le support PHP pour arriver au niveau Python et Java. Donc, voilà. Ego aussi, hein.
Ego aussi, ouais. Ego.
Voilà. Ensuite, il y a Wildflight 8 qui est sorti avec la certification Java E7. Donc, nous, on est content. Et puis, en plus de la certification, il y a le serveur web Undertow qui améliore pas mal les perfs au niveau de des accès page web ou servlet et choses comme ça. Réduction du nombre de ports ouverts. Donc avant, il y avait un port pour RMI, un port pour HTTP, un port pour le management, etc. Donc là, il y a un port pour l'application, tout ce qui est applicatif, donc là, servlet, JAX-RS, les web services et WebSockets, etc. Et un port pour tout ce qui est plutôt management du système. Donc voilà, vous êtes réduit à deux ports. Donc pour les gens qui sont côté ops, c'est plutôt cool, ça évite d'écrire 150 000 règles IPTable et choses comme ça.
Et côté JMX, il y a eu des changements sur les dernières versions, parce que je sais que quand j'avais regardé, c'était la version précédente, c'était plus JMX qui était préconisé, mais je sais plus comment que ça s'appelle là, l'autre système pour faire du monitoring et de l'accès aux infos sur Wildflight. Tu as suivi un peu ça ou pas?
Non, tu me poses une colle.
Je te pose une colle. Bon,
dommage. Je sais qu'ils ont beaucoup bossé là-dessus sur la notion de domaine, etc. Donc c'est possible que JMX, ce qui est exposé, soit plus aussi propre.
Je sais qu'il y avait eu c'est pas une régression, mais un gros changement avec JBoss, avec i6, enfin i7. Et c'est vrai que là-dessus c'était pas problématique en tant que tel, c'est juste que c'était plus conforme à ce qu'on fait d'une manière classique, donc une fois de plus c'était toujours dans les ruptures qui allaient avec le changement de serveur d'app qui était un peu galère à gérer.
Ouais.
Donc je regarderai cette partie-là.
Voilà, sinon il y a eu le accès défini par rôle, enfin le contrôle d'accès défini par rôle, la notion d'auditing des ressources, etc. Ouais, RBAC. Mais je connaissais pas comme c'est Management Role Based Access Control, RBAC. RBAC, pardon. Ils ont fait des trucs sur les Security Manager. Il y a des chances que ce soit pour passer la certification Java E. Voilà. Bon, je vous laisse lire le reste de... Ah oui, il y a la notion de patching à la volée avec la capacité de faire du rollback et des choses comme ça. Donc ça, c'est pas mal au niveau Ops aussi encore. On va passer aux bases de données. Et il y a un monsieur qui, Pierre-Yves, je sais pas quoi, sur Twitter, qui dit « Fun fact, if you scale a CPU cycle from 0.12 nanoseconds to 1 second, an in-memory hash lookup takes 30 days and a Redis lookup takes 1 year. » Apparemment, il s'est un peu vautré sur les volumes, mais c'est intéressant de se dire, tiens, si un cycle CPU, on le ramène à un truc que nous, on arrive à appréhender, c'est-à-dire la seconde, on s'aperçoit que c'est quand même beaucoup plus long. Je sais pas, nous, quand on a démarré, il y avait combien de cycles par seconde?
Il n'y en avait pas un tous les 28 jours, à peu près. Non, ce n'est pas celui-là.
Tu parles de la lune, évidemment.
Ouais, c'est ça, c'était la lune.
On était à combien de mégahertz, nous, quand on a démarré?
Mon premier PC, c'était 25 mégahertz.
Ouais, moi, c'était 50.
Mais avant, je veux dire, j'avais des calculatrices programmables, des trucs comme ça, et donc c'était encore moins.
Ouais.
Alors, qu'est-ce qu'on considère être notre premier cycle?
Un TO7, il y avait combien dessus?
Il y avait peut-être déjà un mégahertz, ça se trouve. Ouais. Ce qui était déjà pas mal, je veux dire, un million, c'est déjà bon, finalement. Mais bon, faut dire que les logiciels qu'on utilise, qu'on développe, plus ça va, plus ça utilise, plus ça bouffe du cycle pour faire quelque chose qu'on aurait peut-être pu faire avec moins de cycles avant, avec du code spécialisé pour tout, quoi. Enfin, c'est ce que je dis des fois, mais je sais pas si c'est vrai, mais c'est l'intuition, en tout cas.
Non, moi, je pense que c'est plutôt qu'on fait plus des choses qu'on se serait pas permis de faire avant, en fait.
Aussi,
plus que d'être des gros ports et de pas optimiser les trucs.
Ouais, peut-être.
Je pense que c'est plus ça qui se passe. Sinon, il y a Hibernate OGM 4.1 bêta qui est sorti. Alors pourquoi 4.1 alors qu'avant c'était 4.0 bêta quelque chose? C'est parce qu'on supporte JPA 2.1 maintenant et donc Hibernate 4.3, Hibernate ORM 4.3. Puis on en a profité pour ajouter le support de CouchDB, d'avoir un système d'options TypeSafe qui nous permet de spécialiser certaines choses, notamment par exemple le write concern quand on utilise MongoDB, ce genre de choses. Donc ça nous permet d'étendre la capacité de customiser les choses côté NoSQL tout en gardant les annotations standards de JPA.
Et Emmanuel, là,
Oui.
donc moi je connais pas vraiment, enfin pas du tout, même Hibernate OGM, mais côté pivotal, on a aussi Spring Data.
Ouais.
Est-ce que tu as des éléments de comparaison objectifs ou qu'est-ce qui va
La
non biaisé
ouais, la philosophie
qu'est-ce
est
qui
un
va
peu différente.
ouais qu'est-ce qui va faire qu'un développeur choisisse l'un plutôt que l'autre ou avantage inconvénient, je sais pas, qu'est-ce que
En fait, je vais t'expliquer les deux philosophies. Donc, Spring
ouais.
Data, c'est plutôt, voilà, tu choisis d'aller vers Redis et donc Spring te rajoute des API qui te permettent de simplifier un petit peu, alors des fois un petit peu le mapping objet, mais surtout l'accès à Redis,
D'accord.
certaines opérations de base, etc., etc. Et donc, tu choisis Mongo, tu choisis Document ou Mongo et t'as sous-ensemble d'API, ensuite tu choisis Redis ou des clés valeurs et ce sous-ensemble d'API, et passer de l'un à l'autre, c'est pas forcément la philosophie. Mais par contre, ça te simplifie, quand tu travailles de Java, ça te simplifie l'accès à ces trucs-là.
Ouais.
OGM, Hibernate OGM, l'idée c'est de dire non, non, on prend l'API JPA, donc c'est un ORM au sens full-fledged, avec un modèle objet, etc., etc. Et ce truc-là, on le persiste dans les différentes bases de données sans techniquement avoir à changer notre code. Donc, un, il y a cette
D'accord.
idée potentiellement un peu sexy de pas avoir à changer le code, mais surtout le
Mais
niveau
qui est pas un
d'abstraction est
peu
beaucoup plus
fausse
haut.
dans le sens où, je veux dire, ils ont chacun leur spécificité et dès lors que tu as besoin d'une spécificité particulière, si c'est orienté document, bah tu l'as pas en orienté graphe ou vice-versa.
Alors ça, c'est un
C'est
débat qui va
pas...
prendre plusieurs heures, donc on va pas
D'accord,
rentrer
ok.
là-dedans, mais
Bon.
on te laisse aller, on te laisse exécuter du code natif si tu as besoin,
D'accord.
notamment sur les requêtes quand on supporte pas encore toute la puissance.
D'accord.
Et surtout, ouais, la capacité de passer de l'un à l'autre, c'est vraiment plutôt au début du projet, plutôt qu'une fois que tu es en prod et que tu as commencé à générer des données, parce que là, tu es quand même dans un problème de migration bien différente, quoi. D'accord?
D'accord.
Mais l'autre truc qui est intéressant, c'est que comme tu as une notion d'objet avec des liens entre les objets, etc., il y a pas mal de choses qu'on va pouvoir faire. Indexer le truc avec Hibernate Search pour faire de la recherche full text, etc. Donc c'est un niveau d'abstraction plus élevé. Donc ça peut. Il y a des gens qui n'aiment pas ça. Notamment, il y a une tendance en ce moment à être vachement lean au niveau des stacks. Mais moi, je trouve qu'il y a un avantage à faire ça et ça fait partie des blogs qu'il faut que j'écrive sur pourquoi je pense qu'il y a un intérêt à faire ce genre de choses.
D'accord. Ok.
Voilà. Donc des outils un petit peu, enfin, qui ont une même vision, un même objectif à haut niveau, mais qui après dans les choix et les approches
Approche
sont un petit peu
différente.
différentes.
Ok.
Voilà. Sinon, il y a. Alors là, tu me poses pas de questions sur celui-là pour le coup. Il y a Manuel Bernard, donc quasiment homonyme, mais pas écrit pareil, qui a fait un tour des accès aux bases de données relationnelles en Scala. Et donc, il a listé, il dit, voilà, j'ai fait beaucoup de MongoDB et d'Elasticsearch récemment, donc j'avais un peu paumé, je suis passé côté Scala. Et là, il faut que je revienne dans une base de données un peu classique. Et donc, il a listé les différents outils, il a essayé de dire les plus, les moins, donc Activate, Anorm,
Slick.
Scala-like, JDBC, Slick, Squareil, voilà, il y a un certain nombre d'autres, je crois, JOQ, etc. Et donc, voilà, donc pour les gens qui font du Scala et qui ont besoin d'accéder à une base de données relationnelle, c'est intéressant. Alors, ils ne cherchent pas les ORM full, ils cherchent plutôt un truc qui va prendre l'objet et en gros générer le insert, le update et le delete et le select qui va bien, voire même te le laisser écrire à la main. Donc, ce n'est pas vraiment un ORM, c'est plutôt du style Ibatis, MyBatis, que d'un ORM au sens full-fledged. Mais bon,
D'accord.
c'est intéressant comme liste. On va passer au tooling. Alors, il y a GitHub qui lance. Pour moi, ils ont raté leur lancement, mais il y a GitHub qui
Ah.
lance un éditeur de texte Atom qui s'appelle Atom. Alors, est-ce que quelqu'un peut nous expliquer what the fuck? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là?
À quoi ça
Et
sert?
pourquoi
Alors,
c'est
c'est un...
révolutionnaire?
Ouais, c'est un peu bizarre parce que en fait j'ai l'impression que ça c'est l'info à leaker, tu vois, et que en fait du coup ils ont fait un lancement à l'arrache et
Ah, tu
que c'était
crois?
pas encore prêt. Bah,
Ah, c'est
c'est
possible.
l'impression que j'ai eue, mais je sais pas si c'est vrai ou pas. Il faudrait que je demande, vu que j'ai des copains chez GitHub, faudrait que je vois ça. Mais bah moi je l'ai récupéré là, Atom. Je l'ai juste
Ouais.
utilisé 5 minutes, mais en fait je suis paumé parce que je connais aucun raccourci, je sais pas trop la philosophie, comment il marche, etc. Bon, t'as un espèce de truc style ah comment ça s'appelle là, l'outil sur
Sublime,
Mac?
sublime texte.
Non non, ouais, je voulais dire ou un peu tu sais comme Shift Shift dans IntelliJ, ou le truc là Quick Silver là, tu vois, t'as une espèce de barre comme ça pour lancer les commandes, mais sinon ça apparaît pas dans les
D'accord.
menus, donc t'as du mal à découvrir les commandes qui sont disponibles.
Ouais.
Bon, je suis un petit peu perdu pour l'instant et j'ai du mal à vraiment me faire un avis dessus. Mais sinon, donc,
D'accord.
à la base, apparemment, c'est développé à partir d'une version de Chromium qu'ils ont dû customiser. Donc derrière, c'est du HTML5, patati patata. C'est en version desktop, mais ça, au début, je me suis demandé si c'était pas parce qu'ils voulaient améliorer, tu vois, le développement en ligne, un peu à la CodeEnvy, enfin, tous ces outils comme ça, et avoir un truc qui marche aussi côté desktop. Je sais pas exactement quels sont leurs objectifs avec ça, mais en tout cas, c'est pas un projet totalement open source. Tu vas avoir certains packages, des extensions, des choses comme ça qui sont open source. Mais sinon, le produit en lui-même, pour l'instant, est gratuit et en bêta, de toute façon. Mais je ne sais pas à terme ce que ça veut dire ou qu'est-ce qu'ils ont. Est-ce ils veulent le vendre? Qu'est-ce qu'ils veulent en faire? C'est encore un peu mystérieux, quoi. Donc j'ai du
Ouais,
mal à
alors
me
donc ils
faire
disent
un
que le
avis
cœur,
et.
le cœur, ils vont pas être en open source, ils vont
Ouais.
probablement te laisser voir le code, mais ça veut pas dire que c'est open source, donc t'as pas le droit
Que
de le
c'est open
piquer et
source,
de
ouais.
faire ce que tu veux.
Ouais.
Par contre,
Ouais.
voilà, les plugins au-dessus permettent de le faire. Et apparemment, en termes d'interface, c'est un peu carrément pompé de Sublime Text, c'est ça?
Bah,
Tu
disons que
trouves?
là, par défaut, t'as le look gris foncé là qui est à la mode. Et puis éventuellement les
Ouais.
tabs, tout ça ressemble un peu. Après, oui, enfin, je dirais que les éditeurs de texte d'aujourd'hui se ressemblent quand même un peu tous, bon, à part Vim et Max. Mais en tout cas, pour l'instant, de ce que je vois, vu que je le connais très mal, cet outil, ça me donne pas envie de quitter Vim, quoi, comme éditeur de texte en tout cas.
Ouais.
Bon, j'ai vu qu'il y avait quand même un package que j'ai installé qui connaît la syntaxe Groovy, donc j'ai commencé par regarder ça.
Ouais.
Donc oui, bon, ça marche. J'ai pas testé tous les cas un peu tordus de la syntaxe, mais je suis sûr que je vais trouver des bugs là-dedans. Mais bon. Voilà, je dirais pas que
D'accord.
c'est pompé. Pour moi, tu vois, Sublime Text, un des trucs enfin, différenciant, tu sais, c'est la barre sur le côté où tu vois ta vue high level de tout ton
Ouais.
fichier.
Ouais.
Et ça, par exemple, je l'ai pas vu. Ça, il n'y a pas ça
D'accord, je croyais qu'il y avait
dans Atom.
justement. Je savais pas que
Donc
j'avais
c'est
vu un blanc.
plus, je pense, on pense à Sublime parce que voilà, le look des tabs, le fond gris et tout ça, c'est un peu à la mode en ce moment. Même IntelliJ, ils le font. Mais je sais pas trop pour l'instant, ça me fait penser à plusieurs choses, mais sans vraiment me dire c'est ils ont pompé tel truc ou tel autre, quoi.
D'accord.
Ce qui est intéressant, le seul truc intéressant que je vois, enfin qui paraît différenciant, c'est le fait d'utiliser Chromium dessous et
Ouais.
d'utiliser
Ouais.
du
Oui,
web
mais
en
ça.
applicatif, quoi. C'est
Oui, mais ça
intéressant.
sert à quoi?
Non, je sais pas si c'est une nouveauté, quoi. C'est une
Ouais,
nouveauté
c'est ça, c'est
et j'ai
ça.
l'impression que ça va être quelque chose qui
Bah,
vers lequel on risque d'aller
normalement.
dans le futur, quoi, de prendre des applis web et
Ouais.
de les faire tourner en natif en desktop app,
Ouais.
sans qu'on voit que ce soit du web, et en apportant quand même, c'est comme un serveur d'app, hein, ça apporte un ensemble de features déjà construites sur lesquelles sur lesquelles tu peux te baser. Donc vu que c'est du HTML, tu as tous les outils HTML, tu as toutes les extensions, les points
Donc tu
d'extension
peux faire
faciles, etc.
le debug avec tu sais, les trucs que tu as dans ton Chrome là pour débugger. Aussi
D'accord.
un autre aspect intéressant, vu que derrière c'est du enfin JavaScript, CoffeeScript, il y a toute une API à laquelle tu as accès et que tu peux plus facilement, je dirais, quand même programmer que si tu dois t'apprendre le Vim script là ou alors le Lisp d'Emacs, tu vois. Donc une des raisons aussi où ils disent finalement on a développé un éditeur de texte, c'était aussi pour dire voilà, on veut pouvoir l'étendre autant qu'on veut, comme on veut, dans tous les sens et tout ça, et de manière plus facile et moins pas archaïque, mais je trouve pas le mot, c'est arcane, c'est pas de la magie noire, pas de la magie noire comme dans les autres éditeurs de texte fameux, quoi.
Et en tout cas, c'est donc ils ont un peu raté leur marketing, on va dire, notamment le fait de ne pas avoir été hyper clair sur le closed source, open source, et l'avantage de ce truc-là. Mais on verra. Ouais. En tout cas, pour eux, c'est une code base sur plusieurs OS, donc ça, c'est un des avantages, j'imagine.
Mais pour l'instant, on peut le télécharger que pour Mac, j'ai l'impression, ou alors ils ont juste customisé la page.
Ouais, peut-être, C'est embêtant.
J'ai,
en plus.
J'ai vu des gens râler à propos du support des OS, donc je pense que ça ne marche pas de toute façon pour l'instant sur toutes les plateformes.
D'accord.
Donc à voir. Mais en tout cas, sinon, ça a l'air responsive. Là, j'ai ouvert quelques fichiers, enfin, pas forcément les plus gros que j'avais, mais ça a l'air d'être. Enfin, si tu veux, j'ai pas forcément l'impression que c'est du web derrière, quoi.
Ouais, ouais. D'accord. Donc, mais c'est intéressant parce que, en gros, ils éditent une page web, mais il faut qu'ils éditent un petit morceau et pas rafraîchir la page web entière. Sinon, ça fait hyper moche.
Ouais, ce qui est intéressant, c'est que ça t'amène du coup tout ton UI. Je sais pas comment il est fait, mais tout le UI est censé être customisable, j'imagine. Donc, t'as les points d'extension natifs en fait.
Parce que
t'as du web.
Enfin, j'ai pas regardé de près, mais.
Ça, c'est assez sympa quand même. T'as pas besoin de construire, t'as pas besoin de construire un système de points d'extension spécifique à ton appli. Tu as celle du web.
T'as le DOM, c'est ça que tu veux dire.
Ouais,
et qu'après,
t'as
tu.
Le DOM,
Parce que du coup, avec la console et tout ça, là, du coup, tu peux voir comment ton code source et les tonnes de div et de styles à la Marvel 2. Là, c'est...
Donc, tu veux dire que ça va prendre 250 gigas sur ta machine encore en mémoire vive, c'est ça?
Déjà, même ce qui m'étonnait. Alors, attends, combien j'avais dit? Je crois que le téléchargement, déjà, c'est style 79 mégas, et une fois décompressé, c'est 170 mégas. Alors, tu dis merde, pour un éditeur de texte, vu que derrière, t'as quand même tout Chromium et tout ça. Il est bon, il est pas si light que ça. Mais en tout cas, bon, il démarre vite et tout ça. Donc, bon, pourquoi pas.
Écoute, moi, maintenant que j'ai passé la barrière à l'entrée qui est un peu dure, je suis bien dans mon univers Vim, J'ai mes tables, j'ai mes machins.
Mais j'aime bien.
J'ai tendance à oublier, donc heureusement je m'écris mes raccourcis utiles et de temps en temps de me dire, je me dis, je savais bien qu'on pouvait faire un truc comme ça.
T'as une méga cheat sheet au-dessus de ton bureau, là. Un poster.
Sinon, encore un qui a raté son marketing, hein. Le livre Apache Maven est open source. Non, je rigole. Donc vas-y, explique-nous, Arnaud.
Bah non, le principe est simple, hein. C'est avec Nicolas, nous on a eu notre éditeur Pearson qui a décidé d'arrêter la diffusion de notre livre. Donc c'est là que vous allez me demander combien on en a vendu et je vais avoir oublié.
7. Je crois que c'est 7.
Hein, 7. 7. Papa, 7 maman, ma frère, ma sœur.
Non, ceux-là, tu les as offerts quand même.
Quelques milliers, en gros. Quelques milliers, mais non, le point, c'est effectivement, eux, ils avaient plus l'envie de l'éditer. Donc nous, on a fait valoir nos droits d'auteur pour récupérer l'accès à notre contenu. Et voilà, et donc aujourd'hui, on se décide de le mettre en open source, puisque voilà, il n'y a pas non plus de business ou d'argent à en tirer sur ce genre d'ouvrage.
Bah, quelques milliers, vous avez bien dû faire des dizaines d'euros de bénéfices. Hein.
Voilà, c'est ça, c'est à peu près ce point-là. À 4% par tête, voilà. Mais non, donc là-dessus, voilà, on a décidé de le mettre en open source. Donc ce qu'on a fait, enfin ce que Nicolas a fait comme d'habitude, c'est qu'il a pris le bouquin, donc il l'a pris en Word, je pense la version XML, et il a commencé.
Il a fait une photo sur les toilettes ou pas?
Il a fait une photo sur les toilettes comme d'hab, et il l'a transformé en ASCII doc. Voilà. Donc là, on est en cours de, on l'a mis sur GitHub, c'est sur son compte GitHub pour l'instant, et c'est disponible pour tout le monde. On a commencé un peu à nettoyer l'ASCII doc générée parce que c'est pas encore, la conversion depuis Word laisse quelques petits soucis. Il y a encore pas mal de taf, mais voilà, donc le but, c'est de pouvoir le fournir d'ici quelques...
Pardon, c'est lui qui a écrit littéralement un XSLT pour transformer, ou...
Je sais plus s'il l'a fait lui-même ou s'il l'a trouvé sur le web, mais je sais plus. Je sais pas te dire. Faudrait lui demander, d'accord, mais je me rappelle plus. Mais voilà, donc il a converti le truc. Et voilà, donc maintenant, on fait un appel à contribution, ceux qui veulent rajouter du contenu, qui veulent le corriger. Puis là, surtout, pour l'instant, on en est à la phase de nettoyer la ASCII doc parce que c'est pas parfait. Il y a encore du boulot. Donc, et puis, comme ça, après, derrière, on pourra faire des e-pubs, on pourra faire des PDF pour le fournir, à tout le monde. Et bon, ça reste utile et ça restera à dispo de tout le monde, de la communauté. Voilà.
Mais ce qui est pas mal, c'est si ça évolue avec les nouvelles versions, si les gens contribuent.
Tout à fait, voilà, il pourra vivre facilement.
C'est bien, ça.
On avait eu le problème, hein. Enfin, c'est toujours le même problème quand on passe par un véritable éditeur avec un véritable cycle. Voilà, même publier des erratums, le truc con, hein, mais quand on écrit un bouquin, des fois il y a des bêtises dedans, ça arrive.
Ah, ouais. Non, pas moi. Hein.
Non, pas toi, mais voilà. Donc pour d'autres, ça arrive. Bah effectivement, rien que publier un erratum, mais c'est déjà la croix et la bannière. Ça doit dépendre certainement des maisons d'édition, mais je sais que nous on avait laissé tomber parce que voilà, c'était tellement compliqué d'essayer de faire publier et de mettre quelque part officiellement un erratum sur tiens, on a trouvé telle coquille ou tel machin, tel truc, c'est juste une horreur. Que là, bah voilà, avec le truc directement en ligne et disponible, bah on corrige en direct, ça sera à jour, on pourra le faire évoluer avec les nouvelles versions de Maven. Donc là d'ailleurs, il y a une nouvelle version qui est sortie ce mois-ci, qui est la version 3.2.1. Je vous invite à l'utiliser. Vous verrez que c'est bien mieux que Cradle, mais bon, ça c'est encore un aparté. Mais voilà, ça peut être mis à jour et il n'y a pas de souci là-dessus pour supporter les éditions au fur et à mesure. Et les pull requests, on attend vos pull requests.
Sinon, il y a Twitter qui a fait une présentation sur comment est-ce qu'ils monitorent Twitter en utilisant des time series et les outils qu'ils utilisent. Et donc Yann Ramin ou Yann Ramin, je ne sais pas s'il est français ou pas. Il y a un certain nombre de slides, c'est dommage parce que ça utilise SpeakerDeck dont je trouve l'interface assez pourrie. Voilà, si vous passez d'un slide à l'autre en avançant,
SpeakerDeck, ben moi justement je migre vers SpeakerDeck plutôt que SlideShare pour éviter toutes les pubs, je trouve ça plus léger, plus sympa, moi, en fait, SpeakerDeck. Intéressant.
Écoute. Ouais. Enfin, moi je préfère envoyer un PDF et basta.
Voilà. Sur Speaker Deck, t'envoies un PDF.
Non, mais envoyé aux gens. Hein.
Ah, d'accord.
Ah, l'ancienne, tu veux dire ou...
Plutôt que partager sur le web.
Bah, c'est sur le web, c'est un fichier PDF sur le web.
Ah, et que tu mets sur ton site, sur ton blog.
On s'en fout, hein, ouais, sur mon blog ou un truc.
Non, mais je veux dire, après, moi je les mets sur mon blog avec le code embedded, quoi.
Ah, oui, d'accord. Ouais. Bah, bref.
T'es un peu has-been là, non?
T'oses pas la mettre? Peut-être. Je sais pas.
D'accord.
Écoute, peut-être. Je sais pas ce que j'aimais pas là. Je me rappelle bien avoir détesté, mais. Bref. Allez voir, vous faites une idée.
D'accord.
Sinon, il y a un monsieur qui a écrit, alors un petit paranoïaque, mais qui a écrit une histoire d'horreur sur Git avec quelqu'un qui en gros hack ton Git et met une faille de sécurité en ton nom et tu te fais engueuler, etc., etc. Et donc il explique que maintenant dans une des dernières versions de Git, tu peux signer chaque commit et non pas seulement les tags. Vous savez, on peut signer un tag en mettant un moins s et on est garanti que c'est nous puisqu'on rajoute la clé publique qui dit voilà, c'est moi qui ai effectivement créé le tag. Et là on peut faire à chaque commit. Alors si vous avez du temps de lecture, je vous recommande, il explique comment est-ce que si on fait pas ça, ça peut mal se passer. Si on sécurise uniquement les tags, comment ça peut mal se passer malgré tout, etc., etc. Donc ça fait quand même c'est quand même assez long, hein, à lire. Mais voilà, je trouvais ça intéressant. C'est le côté paranoïaque, par exemple, dont on a parlé un petit peu en début d'épisode. Il y a pour les gens qui utilisent Undertow, qui veulent tester, il y a Arquillian qui a un module de test de Undertow en version alpha, donc vous pouvez aller voir. Et sinon, j'ai vu Griffon 1.5, et avant qu'on parle de Griffon 1.5, je vois dans ma liste Griffon 1.5 parce que j'ai mis en favori le tweet. Je ouais. clique dessus et qu'est-ce que je vois? De la pub genre vous n'avez pas renouvelé votre DNS, etc. Et donc Codehouse a oublié de renouveler son DNS et je suis tombé dessus. Ça a mis un certain temps avant de se propager et de corriger le problème. Ouais. Et donc Groovy, Griffon, Grail, j'imagine, etc.
Non, pas Grail, là, vu qu'il n'y a plus forcément grand chose sur Codehouse.
D'accord.
Bon, mais bref. En tout cas, oui, plein de projets Codehouse, Sonar, par exemple. Voilà.
Petite erreur de Ben qui a oublié.
Et voilà, qui a juste oublié de renouveler. Mais après, ça a eu aussi d'autres conséquences. Alors, en plus, déjà, ce qui est toujours énervant avec les DNS, c'est que ça met 40 000 ans à se propager correctement sur toute la planète et jamais les mêmes personnes voient les mêmes choses en même temps à différents lieux, différents providers, etc. Et aussi, j'ai vu que... alors, je n'ai pas retrouvé le lien, mais j'ai vu passer ça rapidement. Y a aussi le problème des repositories qui sont hébergés chez Codehouse et qui fait que ceux qui faisaient des lookups pour chercher quelque chose, en fait, ils ramenaient des artefacts, mais au lieu de ramener les vrais artefacts, ils ramenaient la page HTML disant que le...
C'est bon ça.
Et donc là, il y a un peu de ménage à faire.
Il y a de la pollution Maven dans l'air.
Il y a de la pollution Maven dans l'air, ouais. Ouais,
ouais, c'est un par exemple, là, les...
ouais.
Et pourtant, il y a le MD5 et tout, non ?
Ça avait fait ça à l'époque.
Et les petits gars de GFrogs, par exemple, là, du coup, sur Bintray et tout, ils ont déjà tout cleané et tout, donc pour nous encourager à utiliser Bintray. Ouais. Parce qu'eux, ils n'ont pas de saloperie et de pourriture dans leur repo par rapport à Maven Central, blablabla.
D'accord.
Mais donc voilà, ça a eu des conséquences. Par exemple, un truc qui a été bizarre, alors je crois que c'est une question qui était sur Security de Stack Exchange, où il disait qu'en fait, du coup, les gens, enfin le mec en question qui avait posé la question, il s'est retrouvé à voir s'afficher dans... alors du coup, je ne sais plus si c'est dans Maven Central ou dans les repos de Codehouse ou ailleurs, il a vu voir s'afficher des... comment dire, des artefacts propriétaires qui n'auraient pas dû s'y trouver là, vu qu'ils ont fait quand même un lookup. Tu sais, parce que ça cherche d'abord à tel endroit, après à tel autre, mais donc ça cherche. Tu donnes en fait tes coordonnées d'artefacts. Ouais. Donc par exemple, le mec il disait bah voilà, il y a un artefact comme Adobe quelque chose, qui est un truc privé qui n'aurait jamais dû se retrouver dans le repository public, même si derrière c'est juste la page HTML à la noix. Néanmoins, tu as une publication d'information que...
D'accord. Donc, cela dit, donc là ça a été public, mais ça c'est un secret bien gardé, mais le gars qui gère Maven Central et les autres repositories en ligne, ils ont de la qualification client juste hallucinante.
Assez sympa, ouais. C'est clair.
Arnaud, du coup, on a sauté un certain nombre de choses dont tu voulais parler. Tu veux nous faire un petit résumé ?
Non, enfin rapidement, c'était juste quand on parlait de Git, j'avais aussi trouvé un article qui était assez, enfin un article. C'était juste une page où sur OpenStack où ils listent les bonnes pratiques en termes de messages Git. J'avais trouvé ça assez intéressant. Ça peut, enfin après ça marche sur Git, ça marche sur n'importe quel SCM.
C'est quoi, hein. Pas trop long.
Oui, c'est voilà, les mêmes trucs assez classiques, pas trop long. Dire ce que ça fait et non pas comment. Enfin voilà, enfin tout un tas de choses où justement c'est les bonnes pratiques sur essayer de faire des choses qui vont permettre de valider ce que fait le commit quand tu fais de la code review. Après pareil sur la taille des commits, essayer de pas les faire ni trop gros ni trop petits, etc. donc voilà, donc sur ce genre de choses, c'était assez intéressant. Et qu'est-ce que j'avais mis d'autre qu'on avait loupé, c'était un autre article que je vous ai donné, c'est pour faire des schémas dans de l'ASCII doc. Pour ceux qui veulent qui font de l'ASCII doc, vous avez un moyen de faire avec du texte normal votre ASCII doc.
Au niveau front-end, il y a des recommandations de style de code d'AngularJS par Google. Donc pour les gens qui font de l'AngularJS et qui veulent pas faire de l'AngularJS tout caca, c'est vous pouvez voir. D'ailleurs, il y a pas une présentation à Devox sur mon code AngularJS est tout pourri.
Si, tout à fait. Ne me demandez plus qui c'est qui l'a fait, j'ai complètement oublié son nom, mais oui, il y aura bien ce type de présentation à Devox cette année.
D'accord. Voilà, sinon au niveau cloud, Pivotal a bougé Cloud Foundry en une fondation.
Intéressant. Ouais. Intéressant, le fait de ne pas avoir choisi ASF par exemple, c'est intéressant.
Sa propre fondation, ouais, mais après, avec tous les acteurs qui. Enfin, IBM, SAP, machin, tout ça, je sais pas si. C'est pas plus simple de faire sa fondation plutôt que d'en rejoindre une, je sais pas.
C'est pas plus simple, c'est toujours moins simple. Après, il doit avoir des avantages, j'imagine. C'est ça qui est intéressant.
Ouais. Après, là, je ne sais pas. J'ai pas de...
Moi, ça m'intéresse beaucoup parce que ça fait des années qu'on cherche avec XWiki où on se posait la question, qu'on met le code dans ASF, est-ce qu'on fait notre fondation, etc.
Mais non, ce qui est intéressant, là, c'est que sur... justement, sur le site là de InfoQ, ils disent en gros, quand un projet est donné à la fondation ASF et qu'il est en gros approprié, ça fait des... Il y a des... It leads to some strange behaviors in terms of hiring committers. Donc en gros, ils ont peur que ça fasse une course, j'imagine, à l'achat du committer, un peu comme il y a...
pourtant OpenStack, c'est... T'as compris ça comme ça, toi ?
Je sais pas, mais en tout cas visiblement ils ont pas envie. Ouais.
Pour moi, je me demande si c'est pas aussi le fait de perdre un peu cette capacité de choisir qui vient, quand vient, etc. Enfin, ça peut toujours le même truc. Notamment.
J'ai pas trouvé
SF,
les règles de la fondation. Alors.
Ouais, j'ai pas trouvé non plus.
Voilà. Donc on saura plus tard si c'est une fondation un peu à la JCP avec un contrôle quand même. Voilà. Mmh. Apparemment, il y a quand même EMC. VMware et Pivotal qui sont membres, donc ça fait déjà trois votes pour une seule société.
Ouais, bah, ouais, c'est ça.
Si quelqu'un a remarqué ça, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais. bon, voilà, à suivre en tout cas. J'espère que ça sera pas comme, je sais plus quel truc sur OSGI que vous aviez donné à Eclipse et qui finalement a pu trop évoluer derrière.
Le
truc Spring OSGI là.
Ouais. D'accord, ouais. Ouais, autant celui-là, je pense que c'était plus pour le laisser vivre sa vie et puis passer à autre chose. Autant là, la fondation Cloud Foundry, je pense que c'est pour grossir la R&D, pour grossir tout ça et essayer de faire en sorte que tout le monde, enfin que ceux qui veulent contribuer puissent le faire sans se dire ça y est, on file tous les trucs à Pivotal et compagnie, tu vois. C'est un peu l'impression que j'ai, mais je peux pas forcément en dire beaucoup plus là.
D'accord.
C'est juste un. Je ne parle pas au nom de mon entreprise.
Ouais. Qui change tous les matins alors.
D'ailleurs, je sais même plus pour qui je bosse de toute façon.
Bon, sinon, on va passer rapidement aux méthodologies. J'ai lu un article sympa qui reflète un peu ce qu'on fait. C'est le feedback, le 30% feedback, le retour de... Pas retour d'expérience, mais le... Comment on dit feedback en français ?
Retour utilisateur, tu veux dire ou...
Pas forcément utilisateur, mais le...
La boucle de retour de...
Ouais, bon, bref. En fait, on a tendance à écrire le truc, que c'est prêt à 90%, et là, on demande du feedback. Mais ce qui se passe, c'est que comme on a écrit 90%, le feedback, on le reçoit pas forcément très bien. On est là, avec tout ce que j'ai bossé déjà dessus, tu me demandes en gros de tout changer, quoi.
Alors, peut-être que tu te sens attaqué et tu justifies ce que tu as justifié ce que tu as fait. Ouais.
Et t'as pas envie de le faire, du coup. Et donc, le gars dit, hein, quelqu'un m'a appris le retour à 30%. Donc, déjà, tu mets le gars, tu lui dis, voilà, j'ai fait à peu près 30%, donc, ne te focalise pas sur les fautes d'orthographe, les petits détails de design et je sais pas quoi. Donne-moi ton feedback sur l'idée globale parce que là, j'ai bossé que j'en suis à 30% de complétion. Donc, si tu me dis, la couleur, elle est pas belle, en fait, tu as perdu ton temps parce qu'il y a des choses que je vais rajouter. Donc déjà, le gars qui donne le retour, il sait le niveau de retour que tu veux. Donc ça, c'est intéressant. Et ensuite, comme tu as bossé, que tu sais que tu as encore beaucoup de boulot derrière, t'es plus prêt à accepter les retours d'expérience. Donc c'est un article intéressant qui explique finalement un petit peu ce qu'on fait quand on fait... Nous, on fait des pull requests à ne pas inclure feedback only, par exemple, où on dit, je viens de commencer, voilà l'idée, qu'est-ce que vous en pensez? Et donc, c'est assez similaire à ça. Donc je trouvais que ça résonnait
ça
pas
ça
mal.
Ça va dans l'agilité, dans les processus agiles, ça va...
Ouais.
Un peu le concept du wiki aussi, d'ailleurs, un peu tout ça, quoi.
De publier très vite, quoi.
Ouais, publier vite et que tu augmentes de manière incrémentale après, en fonction du feedback, etc.
Ouais. Sinon, il y a un monsieur qui explique les bonnes pratiques pour utiliser @deprecated, la notation... avec, en conjonction du javadoc @deprecated, donc il a des règles un petit peu extrêmes, moi personnellement, je trouve.
C'est assez bateau, hein, je trouve ce qu'il dit, j'ai regardé aussi, c'est un peu, en gros, il dit de pas dire...
mais Vincent, t'es un petit peu extrême des fois quand même.
Il dit, ne pas écrire dans @deprecated qu'il faut pas l'utiliser, ça on le sait déjà, et dire plutôt c'est quoi ce qu'il faut utiliser, quoi. C'est assez...
Ouais. Mais il va jusqu'à enlever carrément la Java Doc de la méthode et de dire non, va plutôt voir la nouvelle méthode.
Ouais. Si. Ouais. C'est extrême, donc, genre, mais
tu
bon.
Tu caches l'info en fait. L'ancienne info.
Ouais, mais tu sais un lien, après tu cliques dessus.
Ouais. Mais
tu caches l'ancienne info, c'est-à-dire mais que le fonctionnement de l'ancienne, il a disparu.
Ouais, nous on vire tout, on vire carrément le deprecated aussi. on bouge dans un module legacy qu'on applique avec des aspects, comme ça tu le vois même plus du tout quand t'es développeur.
D'accord.
Tu le vois en tant qu'utilisateur,
sauf si tu rajoutes. Sauf si tu rajoutes legacy, c'est ça?
Ouais, c'est si tu builds, si tu packages les modules legacy, tu les as.
D'accord.
Et sinon, tu les as pas.
D'accord. Sinon, il y a un monsieur qui explique comment faire du code sécurisé. Alors, c'est vraiment bateau, mais bon, c'est toujours bon de se rappeler de ça, notamment le hash sur les mots de passe avec du sel, d'encrypter toujours les données sensibles, de pas loguer le mot de passe de l'utilisateur, des détails comme ça. D'utiliser des pre-parsemment pour ne pas se faire de SQL injection. Voilà, un certain nombre de choses, bonnes pratiques un peu à faire, mais qui est toujours bon de se rappeler. Voilà, ensuite on va passer à la séance people qui marche. Ça fait 2-3 fois qu'on le fait, hein, ça a l'air assez populaire, je trouve toujours des trucs à dire. Déjà, il y a David Gageot qui est devenu un Java champion. Donc félicitations à David.
Bravo David.
Félicitations.
Et du coup, il a décidé qu'il allait bloguer tous les jours, c'est ça?
Ouais.
C'était sa résolution de la nouvelle année, je crois. De bloguer
tous les jours. Est-ce qu'il a réussi jusque-là?
Pour l'instant, je crois qu'il s'y tient. Ouais, pour l'instant, il me semble qu'il publie tous les jours.
Pas le week-end, hein?
Pas le week-end, non. 5 jours par semaine, tout à fait.
Voilà, donc le dernier, c'est Setup Docker on OS X, par exemple.
Il va faire une série, ouais, là, sur Docker.
Ouais. Que j'ai utilisé la vendredi, j'étais juste cramé. Et j'ai plus d'énergie. J'ai passé l'après-midi à jouer un peu à Docker pour sur Mac, pour lancer et tester des trucs, voir comment ça marchait. Sympa, c'est intéressant.
C'est sexy leur site, hein, pour le tutoriel, la démo là.
Ouais, parce qu'on le fait tourner de son navigateur, ouais.
Ouais.
D'ailleurs, ça faisait pas la même chose moi sur mon sur mon installation. Et en fait, le problème du Mac. Donc, si vous êtes sous Linux, ça va. Donc, il faut bien pas oublier d'ouvrir les ports et les choses comme ça. Mais si vous êtes sous Mac, en fait, c'est une VM qui est Vagrant, je crois. Non, une VM VirtualBox.
VirtualBox.
Qui elle contient le truc qui lance les containers Docker. Et donc, non seulement il faut ouvrir les ports Docker pour que ça se voit, mais il faut ouvrir les ports de la VM pour faire un binding entre votre port local de votre host et la VM, sinon vous voyez pas les trucs. Et c'est plus ou moins expliqué quand on recherche un peu 2 heures sur Internet, mais c'est quand même pas évident. Donc voilà, il y a encore un peu de boulot. Et sinon, il y a qu'on appelle ça? Un truc qui montre graphiquement les données, là. On appelle ça. Bon, bref. Un truc qui explique les salaires moyens dans la Silicon Valley en fonction.
Une infographie?
Infographie, voilà. Merci. En fonction des années, en fonction des quarters, en l'occurrence, et aussi en fonction de la taille de l'entreprise. C'est une boîte qui vient juste d'être fondée, une boîte qui a reçu un série A, série B, série C, etc. Et combien vous êtes payé si vous êtes un back-end versus généraliste, etc. Donc juste pour info, le dernier quarter de l'année en 2013, c'était quand même vachement mieux qu'en 2012, mais ça on imagine bien. Il vaut mieux bosser pour une boîte qui est en série A.
C'est pareil, en fait, c'est pareil.
Bah, 129K, 123K.
Ouais, quand même... c'est pareil, globalement. Ils sont entre 122 et 129, tous.
Ouais, c'est ça. Ouais. Ensuite, vaut mieux bosser dans le back-end. Wouhou!
Ouais, j'ai vu ça, j'étais étonné. Hein.
Aussi, ouais.
Il faut mieux bosser en Python, alors encore plus étonné.
Ouais, il vaut mieux être manager. Ouais, alors le Python back-end, c'est la fête. Mais Java se défend bien quand même, hein. 149K versus 151K. Ouais. Et JavaScript 140. Tiens!
C'est ça, ouais.
Prends ça. Vaut mieux être senior que, voire manager que junior.
Ça change.
Ça, voilà. Ruby, il y a 138K, c'est encore pire que JavaScript. Enfin, pire. voilà, donc c'est ça. Et après, ils regardent les écoles qui sont les plus embauchées. Alors, c'est très côte-ouest. Oui, côte-ouest. Donc, pour nous, c'est pas très intéressant. Mais voilà. Et ensuite, ils montrent San Francisco même. C'est là où il y a je crois le plus de gens, ensuite la partie la péninsule Palo Alto et South Bay là qui est un peu la c'est un peu la banlieue ouais,
c'est quoi. Ça, ça. La banlieue le ghetto de SF.
Et c'est joliment fait donc vous pouvez aller voir, ça vous ça donne des vues intéressantes sur combien sont payés les gens en face. Je m'attendais à plus en fait en termes d'argent limite.
C'est au-dessus de nous je pense, mais bon après effectivement comme le modèle est complètement différent, c'est pas vraiment comparable.
Faut voir le coût de la vie aussi.
Oui voilà ça le coût de la vie, les impôts, enfin tout voilà, tout est différent donc c'est difficile. Oui les bruts sont supérieurs aux Français c'est certain mais.
J'aimerais bien savoir quel est le ratio quoi qu'il faudrait appliquer entre un salaire là-bas et un salaire ici.
C'est intéressant.
Quelqu'un qui arrive à faire la vraie comparaison entre les
deux. Ça bouge tout le temps. Moi, je l'avais fait un jour. Je crois que j'en avais peut-être pas parlé. J'en avais parlé, moi, quand j'avais fait France-US et US-France. Mmh. J'avais expliqué les différences.
Et donc, enfin, à vue de nez, t'as un chiffre en tête. Je veux dire, tu fais 1,5 et t'as l'équivalent.
En fait, ça dépend des villes américaines. Ouais. Donc, San Francisco va être très différent d'Atlanta, par exemple.
Ouais.
Et donc, tu peux pas dire US versus pas US.
Oui, ouais, c'est ça, enfin, ça dépend des villes.
Je sais pas, Paris versus Orléans.
Il y a une plus grosse variation entre des villes US que des villes françaises entre elles.
Je suis pas sûr. Hein.
Parce que ceux qui sont pas à Paris,
il y a facile 50%.
Franchement, enfin,
entre deux grandes villes, il peut y avoir 50%.
Entre les grandes villes, ouais.
Tu vois, 90K, tu vas très bien vivre à Atlanta. 90K à San Francisco, tu vas te faire la manche. Enfin, j'exagère un peu, mais tu vas pas bien vivre.
Parce qu'en France, les différences sont importantes aussi hein, entre Paris et la région, enfin, clairement.
Ouais, donc c'est pour ça que c'est toujours difficile de faire ce genre de choses. Voilà. Est-ce que tu veux parler du coup d'une main dans le cambouis, Vincent?
Je peux te faire ça en une minute si tu veux, rapidement.
Vas-y.
Alors, je vais vous parler d'un petit outil sympa pour les tests en Java. Donc, vous avez le besoin
est suivant. C'est JUnit.
Ouais, JUnit, personne ne connaît. C'est tout récent. Non, souvent...
C'est quoi des tests?
Donc, vous écrivez vos tests, donc avec JUnit, par exemple, le test unitaire. Et puis, donc, vous avez plusieurs. Et puis, vous avez besoin notamment d'avoir... de faire des tests un peu d'intégration fonctionnelle. Et notamment, vous avez besoin de démarrer un serveur avant une suite de tests, par exemple, et l'arrêter à la fin, ou faire un setup commun à tous ces tests-là. Donc, vous créez une suite. Donc, jusque-là, tout va bien. La difficulté, plutôt, en général, vous créez une classe de suite. Et la difficulté est de s'assurer que dans cette classe de suite, ça prend en compte tous les autres tests, automatiquement. C'est-à-dire, si vous rajoutez un autre test, vous n'avez pas manuellement à le rajouter dans la suite. Et donc, il y a un petit utilitaire sympa qui s'appelle ClassPassSuite. Je mettrai les liens dans l'épisode, dans les notes de l'épisode. Et vous pouvez faire un @run en JUnit, et ça va vous permettre d'automatiquement que ça trouve l'ensemble complet des classes de test. Donc c'est sympathique, ça le fait tout seul. Et
après, t'es obligé de définir des règles de package ou d'annotation pour filtrer?
Non, il trouve tout seul, c'est-à-dire qu'il sait c'est quoi un test unit, c'est notamment parce qu'il y a des annotations à test sur les méthodes des classes unit. Donc en fait, il va parcourir tout le ClassPass.
Ah, mais ta suite, elle contient tous tes tests possibles et imaginables, c'est pas un sous-ensemble de tes tests du coup?
Non, c'est tous tes tests. Alors après, t'as plusieurs annotations dans ce ClassPass suite, donc tu as le runwith de JUnit classique. Et puis, mais tu peux aussi dire faire des règles de filtrage si tu as envie. Il peut dire seulement des trucs qui sont appelés comme ça ou à tel endroit, etc. Mais par défaut, il va aller chercher dans tout le ClassPass et découvrir ce qui est des tests JUnit.
D'accord.
Et les faire tourner. Moi, je l'utilise par exemple sur XWiki pour. J'ai étendu ClassPass suite pour que automatiquement, quand je fais un run with avec ma suite, mon XWiki executor suite, ça démarre automatiquement XWiki et ça l'arrête à la fin, par exemple.
D'accord.
Donc du coup c'est ma classe AllTest qui contient tous les tests. Elle a juste un @runwith ClassPassSuite ou XWikiExecutorSuite et dedans il y a rien besoin d'autre, c'est vide le reste. Et quand tu run AllTest, que ce soit dans ton navigateur ou par Maven, ça va t'exécuter l'ensemble des tests dans ta suite.
D'accord.
Voilà.
Cool.
Un petit outil sympathique que j'utilise depuis longtemps, mais je ne sais pas s'il est connu des autres.
Non, moi je ne connaissais pas, par exemple.
Non plus.
Du coup, je ne fais pas de suite en fait.
Je ne fais pas de test.
Enfin, disons que chaque test va redémarrer le container ou je ne sais pas
quoi. Ça peut être lent.
Ça peut être lent. Sinon, les conférences, alors deux mémoires, donc Devox évidemment, mais de toute façon, il n'y a plus de place. Donc voilà. Et sinon, il y a le Breitscamp qui est en mai, je crois, un truc comme ça.
Ouais, 23 mai, un truc comme ça, c'est ça, non ?
Ouais, il me semblait, mais j'ai effacé les trucs.
Et le CFP, il est toujours pas...
Non.
Bon.
Donc voilà, ça va arriver, vous inquiétez pas. Et si vous avez des conférences que vous voulez, dont vous voulez qu'on parle, envoyez-nous un petit Twitter ou un truc dans ce goût-là, je les noterai et on en parlera ben, le mois prochain, en gros.
Ciao, ciao.
À bientôt.
Le thème musical est le thème numéro 3, gracieusement offert par podcastthème.com, podcastthemes.com. Le logo a été dessiné par Nicolas Martignol, alias le Touilleur Express, www.touilleur-express.fr.
Cascodeurs reviennent dans quelques minutes. Nous avons perdu les cascodeurs, mais ils vont revenir dans quelques instants.
Tiens, les cascodeurs.
Les cascodeurs reviennent dans quelques instants. Merci de patienter.
Ah, la galère. La fibre, c'est bien, mais quand ça marche pas, c'est pas bien.
Ah ouais.
Ah. J'ai plus de problèmes. J'ai plus d'indispo que maintenant que j'ai la fibre.
Bon, j'avais mis une petite musique d'attente, hein, parce que quand même, histoire de.
C'est ça. C'est ça. Bon. On va avancer du coup. Je crois que t'as fini du coup.
Donc oui, j'ai fini sur qu'est-ce qu'on avait fait. Griffon, vous aviez cité ou pas? Vous aviez parlé ou pas? Qui c'est qui a parlé de Griffon? Vous avez fait ou pas?
Bah, il l'a juste mentionné en passant, mais bon, j'ai pas forcément.
Il y avait Griffon et moi j'avais mis Crash, mais j'ai pas parlé de Crash. Mais
c'est déjà un peu long, okay. Je pense, l'épisode.
Donc on arrête. Ouais, on passe.
1h18. Ouais. Okay.